Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 8. Après avoir pédalé sans relâche pendant plusieurs kilomètres, ils arrivèrent en haut d'une colline d'où la vue sur la vallée était splendide. Anthony reconnut au loin la ville d'Aubenas et le centre Leclerc dans lequel il avait travaillé pour pouvoir acheter sa voiture. Bien que fourbu par des heures d'effort, il s'étonna en constatant le chemin parcouru. En permettant de couper à travers les champs et les bois, le vélo offrait une tout autre perception de la géographie locale. Tout paraissait à la fois inaccessible et voisin, c'était simplement un changement de rapport au temps. En moins d'une heure, sans doute, il pourrait rejoindre la ville qui paraissait si lointaine. Pourtant, à cheval sur son vélo au milieu de la nature, il avait le sentiment d'être définitivement perdu, abandonné de la civilisation. Ils pénétrèrent dans un verger aussi luxuriant que celui du matin. Des pêchers s'y entremêlaient aux ronces et aux orties, si bien qu'on distinguait à peine les fruits qui semblaient difficilement trouver leur place au milieu des branchages. Jean-Jacques sortit une faux de nulle part, sans doute cachée dans les herbes hautes comme l'échelle des abricotiers, et entreprit la coupe méthodique des orties les plus hautes. Anthony essaya de s'intéresser à l'activité pendant que Marion s'affairait inexplicablement autour des remorques à vélo. « Vous ne vous faites jamais voler de matériel ?» Jean-Jacques interrompit son labeur et s'essuya le front avant de répondre. « Tu as peur qu'on fauche ma faux ?» demanda-t-il en souriant. « La faux, l'échelle, j'imagine que vous avez d'autres outils qui restent dans vos parcelles pour éviter d'avoir à les transporter à vélo, » continua Anthony sans relever le jeu de mots. « Si quelqu'un utilise mon échelle, pourquoi lui en voudrais-je ? Il emprunte aussi les mêmes chemins et respire le même air que moi. Cela ne m'empêche en rien de vivre à côté de lui. » Vous répondez toujours par des pirouettes, mais vous éludez le problème. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas retrouvé votre faux aujourd'hui, ou si elle avait été cassée par un malotru? Je n'aurais sans doute pas pu couper ses orties. Et? Cela n'aurait-il pas eu des conséquences sur vos cultures? Franchement, non. Alors pourquoi produire cet effort s'il est inutile? Je n'ai pas dit que c'était inutile. J'ai dit que cela n'aurait pas eu de conséquences directes sur ses péchés. Il ne faut pas être ingénieur agronome pour se rendre compte que ces mauvaises herbes étouffent vos arbres. C'est bien pour ça que vous les fauchez, non? D'ailleurs, je m'étonne que vous n'ayez pas fait la même chose auprès des abricotiers ce matin. Des mauvaises herbes? Quel drôle de vocabulaire! Il y en aurait de bonnes aussi? Encore une pirouette! Mais si vous souhaitez un peu d'aide de ma part, il faudra bien que vous m'expliquiez le but de tout ça. Marion interrompit la discussion en tendant des gants à Anthony. Enfile ça et aide-moi, au lieu d'essayer d'avoir le dernier mot avec mon père. T'aider? Mais à quoi? Il ne finit pas sa phrase, observant Marion qui commençait à ramasser les orties pour les entasser dans la remorque de son vélo. Il ne comprenait pas et fit part de son étonnement en tentant de trouver une explication tout en prenant du bout des doigts quelques tiges urticantes. Vous évacuez des déchets d'orties? Il n'y a pas de déchets dans la nature. Tout est utile, dit Jean-Jacques en reprenant le fauchage. Cela va nous servir à fabriquer du purin, compléta Marion. Du purin d'orties? Mais à quoi ça sert? C'est un excellent engrais et aussi un répulsif contre les parasites. Ces orties ne sont pas là par hasard, elles ont un rôle à jouer, comme tout le reste. Comme mon échelle et ma faux sont bien plus utiles sur le terrain que dans mon garage, sous clé. Si ces orties ont un rôle à jouer ici, en les prélevant à la nature pour les ramener chez vous, vous perturbez l'écosystème. C'est mal, rétorqua Anthony sur un ton à peine moqueur. Jean-Jacques cessa de faucher et chercha le regard de Marion. Celle-ci sourit en disant « Là, il marque un point, papa, tu te fais prendre à ton propre piège. » Ça fait partie de mon empreinte écologique, admit-il, et il reprit son travail. Ils terminèrent le fauchage et le ramassage des orties, puis enfourchèrent à nouveau les vélos pour redescendre dans la vallée. Alors qu'Anthony essayait de changer de vitesse, le câble de son dérailleur céda, bloquant la chaîne sur le plus petit pignon. Il s'arrêta pour constater les dégâts qui n'empêchaient pas le vélo de rouler, certes, mais n'étaient pas réparables sur place et allaient rendre la fin du trajet encore plus difficile. Ses muscles ne répondaient plus, le soleil brûlait sa peau et il ne supportait plus le contact de la selle. Il demanda combien de kilomètres les séparaient de la maison et, apprenant qu'il en restait une dizaine, décida tel un enfant capricieux que ce n'était plus possible. Marion et son père observèrent sa colère, mi-amusés, mi-compatissants, et tentèrent de le raisonner. Après tout, il ne restait plus que de légères pentes, pendant une grosse demi-heure de trajet, tout au plus, et plusieurs descentes où il suffisait de se laisser aller en roue libre. Après plusieurs minutes de repos où il refusa de remonter sur son vélo, blessé dans son amour-propre, Anthony ne savait plus comment mettre fin au psychodrame sans perdre la face. Aussi, quand Marion lui proposa d'échanger son vélo avec le sien qui disposait encore de toutes ses vitesses en ordre de marche, Il sauta sur l'occasion, oubliant qu'il acceptait aussi la remorque chargée d'orties attelées à sa monture. Anthony monta sur le vélo de la fille et s'aperçut dès les premiers mètres du poids considérable de son chargement. Mais résigné, il serra les dents en se demandant comment cette fille avait pu tirer cette remorque depuis le matin sans effort apparent. Marion, elle, ne parut pas se formaliser de la bicyclette au rapport imposé. Elle profita même du dernier kilomètre pour prendre un peu d'avance en annonçant « Je vous attends à la maison !» Elle disparut rapidement au détour d'un virage, et Anthony perdit le peu d'énergie et de dignité qu'il lui restait en s'arrêtant pour vomir au bord de la route, juste avant d'entrer dans le village. Il poussait le guidon de son attelage quand il arriva à la maison. Marion lui demanda s'il avait déraillé ou crevé, mais Jean-Jacques répondit à sa place. « Il est juste à bout de force, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte. » Marion lui tendit un verre d'eau fraîche et s'occupa de garer le vélo et sa remorque sous la pentille. Quand il eut repris des couleurs humaines, elle s'approcha de lui. « Que dirais-tu d'une bonne douche avant de passer à table ?» Il était plus de midi, Anthony avait le ventre vide, la chemise trempée de sueur. Sa tête bourdonnait sous le soleil plombant, il était sans doute au bord de l'évanouissement. Il se contenta d'acquiescer. Elle le conduisit alors jusqu'à la fameuse douche extérieure et lui dit « Je t'ai préparé une serviette ici et tu trouveras tout ce qu'il faut à l'intérieur. Reste le temps qu'il faudra pour te refaire une santé et sache que je suis désolé. » De quoi bredouilla Anthony qui se demandait comment ses jambes parvenaient encore à supporter son corps. De la façon dont s'est déroulée cette première journée. Elle s'éclipsa, le laissant seul face au cabanon qui tenait lieu de douche. Il pénétra entre les planches de bois et referma derrière lui. Il flottait en ce lieu une odeur familière, rassurante, qu'il ne reconnut pas immédiatement. Puis l'évidence lui sauta aux narines. C'était celle de la peau de Marion. Il se dévêtit aussi rapidement que ses courbatures le lui permettaient et posa un pied sur les caillebotis tièdes qui tapissaient le sol. Le contact était agréable, la sculpture des dalles de bois massait délicatement sa voûte plantaire. Il repéra la serviette que Marion avait jetée par-dessus l'une des cloisons et un étrange savon biscornu posé sur une étagère de fortune. Il le sentit de plus près, et cette inspiration le réveilla de sa torpeur. Il tourna le robinet en regardant le pommeau de douche et le ciel bleu en guise de plafond. Les premières gouttes un peu fraîches furent suivies d'autres bien plus chaudes, et le contact de l'eau, comme un voile fin sur sa peau, régénéra rapidement le jeune homme. Il ferma les yeux et entendit les oiseaux tout proches. Un courant d'air léger portant un parfum fleuri lui chatouilla les jambes. Il sourit. Des images de sa matinée lui revinrent. La douleur laissa place au plaisir. Ses poumons, éprouvés par l'effort, respiraient à nouveau, mieux qu'avant, se surprit-il à penser. Il songea au goût de cette moitié d'abricot tendue par Marion et à cette sensation unique, nouvelle pour lui, de prendre corps avec la terre, de l'habiter enfin vraiment. Il perçut un courant d'air un peu plus marqué. La porte en bois s'entr'ouvrit et un bras l'enlaça, puis il sentit la poitrine brûlante et nue de Marion s'écraser dans son dos. Elle embrassa sa nuque sous le filet d'eau, puis caressa son torse de ses mains savonneuses. Il n'y avait plus qu'un corps, soudain. Toute la vie d'Anthony se résumait à cet instant précis. Il rouvrit les yeux. Il était seul. Abasourdi par ce qu'il venait d'imaginer, il laissa couler l'eau encore longtemps, peut-être 5 minutes ou 10. Il attrapa la serviette épaisse et douce pour se sécher et réalisa qu'il n'avait pas d'autres vêtements que ceux qu'il portait en arrivant. Il parvint à enfiler son pantalon poisseux, mais laissa de côté sa chemise encore mouillée et malodorante. Il sortit de la douche torse nu et chercha en vain dans sa voiture un t-shirt oublié. Marion arriva dans son dos. « Alors, ça va mieux ?» demanda-t-elle gentiment, presque inquiète. Il se retourna et remarqua sa gêne à le voir ainsi. Il plaça maladroitement ses bras sur sa poitrine comme un bouclier en lui répondant. « Excuse-moi, est-ce que vous auriez un t-shirt à me prêter? Ma chemise s'est transformée en éponge ce matin. »« Bien sûr, je vais te chercher ça dans les affaires de mon père. Alors, la douche ?» C'était incroyable. « Ah, ça te l'a fait aussi ?» Je pensais que c'était des hallucinations dues à mon insolation. « Non, ça me le fait à chaque fois. Tu comprends maintenant pourquoi on tient à ce qui peut paraître comme une régression sanitaire ?»« Je crois que oui. » Elle sourit, se retourna et sautilla jusqu'à la maison pour aller chercher un vêtement propre et sec. Il sourit à son tour et observa ses cheveux fouetter son dos à chaque soubresaut. Il ajouta pour lui-même, à voix basse, « Je crois que j'ai compris pas mal de choses aujourd'hui et j'ai soif d'en apprendre davantage avec toi. »